échelonnement des haies, moutonne à l'infini, mer, claire dans le brouillard clair, qui sent bon les jeunes baies. Des arbres et des moulins sont légers sur le vert tendre où vient s'ébattre et s'étendre l'agilité des poulains. Dans ce vague d'un dimanche, voici se jouer aussi de grandes brebis aussi douces que leur laine blanche. Tout à l'heure déferlait l'onde roulée en volute de cloches comme des flûtes dans le ciel comme du lait.
Bonjour, bienvenue sur Antenne Doc. On va écouter l'émission Le Temps des Fleurs. Et vous avez entendu là un poème de Paul Verlaine qui s'appelle L'échelonnement des haies. Et oui, aujourd'hui, on ne va pas parler d'une plante, mais on va parler plutôt d'un ensemble de plantes qui constituent en fait une entité paysagère que tout le monde connaît. Ce sont les haies. Alors, pourquoi j'ai envie de vous parler des haies? Bien, en fait, j'ai bien envie que vous vous rendiez compte à quel point il est important de garder des haies en bonne santé dans notre environnement. C'est un élément végétal de notre paysage qui a une très forte valeur patrimoniale, tant naturelle que culturelle. Et en fait, c'est un réel héritage riche de nos anciens. Car en fait, les haies sont associées à des terres exploitées par les humains et elles constituent un paysage de bocage. On peut même dire que la haie est la personnalité du paysage bocageux. Et on sait que les premières traces de haies remonteraient au néolithique, et l'époque en fait des premières formes de l'agriculture. Alors la haie, globalement, tout le monde sait à peu près à quoi ça correspond, mais on va essayer de voir un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est que vraiment une haie. Alors déjà, le mot haie, d'où vient-il? Il vient du vieux francique, c'est un dialecte germanique, le mot agja, et en néerlandais c'est eige. Le vieux normand a utilisé le mot hag, H-A-G. Le normand moderne utilise le même mot, H-A-G-U-E, ou aille. D'ailleurs, ce mot a donné le mot aillé, qui veut dire faire une haie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une haie? Tout le monde le sait. On va dire que c'est une ligne, une sorte de clôture faite d'arbres et d'arbustes qui sert la plupart du temps à limiter ou à protéger une parcelle de terrain qui, elle, est non forestière. Donc on va dire les parcelles de culture, de pâture ou même les jardins. Mais le terme de haie a pu désigner originellement autre chose qu'une rangée d'arbres, puisqu'on le trouve aussi dans le sens de lisière forestière sous la forme ancienne du mot haie. On retrouve ce mot H. A-Y-E en toponymie. Et en France, la plus célèbre est la forêt de Haye qui couronne Nancy. D'autres moins connues, comme la forêt de Front de Haye en Lorraine, où se déroulèrent les combats du premier conflit mondial. Et dans le nord de la France, à Avesnes-sur-Helpe, il y a une forêt linéaire qui forme un arc de cercle au nord de la commune qui s'appelle la Haye d'Avesnes. Donc, si on revient quand même à la définition moderne de la haie, qu'est-ce que c'est qu'une haie concrètement parlant? Finalement, une haie, pour qu'elle soit bien fonctionnelle et une belle haie, c'est une haie qui est constituée de au moins trois strates. Donc, strates de végétation. On dit que c'est une haie stratifiée ou arborée. Alors, ces strates, c'est d'abord la plus haute, c'est la strate arborée. On va dire qu'elle est constituée d'arbres de ogées, comme des chênes, des frênes, des érables, ou alors une strate de moyenne CP, qui est constituée finalement d'une sorte d'étouffe de rejets qui sortent de souches d'arbres qui ont été coupées. Ensuite, on a la strate en dessous, qui est la strate arbustive, qui est constituée d'arbustes, qui, elle, va permettre d'élargir la haie, de la densifier, de la rendre plus touffue. On peut trouver dans ces arbustes des lianes qui vont aussi améliorer la densification de la haie. Et ensuite, au pied de tout ça, on a la strate herbacée. Cette strate herbacée est composée en général d'espèces à fleurs avec des larges feuilles. Mais aussi, on peut trouver des graminées. Et cette strate herbacée, en général, on l'appelle En écologie, on l'appelle ourlet. Un ourlet, comme un ourlet de bas de pantalon, mais finalement, c'est comme ça qu'on nomme l'astrate herbacée qui se trouve en pied de fourrée ou de zone arbustive. Alors, est-ce que vous êtes déjà posé la question, est-ce que les haies sont à un endroit particulier? Pourquoi on retrouve les haies à cet endroit-là? Alors, la première explication serait qu'il arrive qu'une haie soit en fait un reliquat d'une ancienne forêt et que cette forêt ait été exploitée, mais qu'une bande boisée a été conservée pour des raisons plus ou moins stratégiques. On peut observer ce genre de choses, par exemple, si on retourne un petit peu sur les cartes d'état-major, et on peut constater finalement, en comparant cette carte-là à des photos aériennes actuelles, que certaines haies sont issues de boisements qui étaient déjà présents il y a quelques dizaines d'années. Ensuite, les haies peuvent être issues d'une libre évolution ou d'une plantation pour différents objectifs. Mais alors, pourquoi on va retrouver ces haies qui sont soit plantées, soit se sont développées de façon naturelle à certains endroits? Mais on peut souvent constater que c'est un petit peu en lien avec la topographie et donc finalement le micro-relief qu'on peut trouver localement. Et elles vont finalement se retrouver là parce que on est dans des secteurs qui sont peut-être moins accessibles aux engins qui vont permettre la fauche ou autres machines. Et donc, ben, on se retrouve avec une libre évolution des arbustes qui vont coloniser une zone comme par exemple un talus ou un bord de fossé. Et donc, c'est vrai qu'il est fréquent de retrouver des haies sur des talus, en bord de fossé, qui longent des chemins ou des routes, mais aussi le long des rivières ou des ruisseaux. Et ensuite, on a une dernière explication du pourquoi on a des haies à des endroits et pas à d'autres. C'est parce que les haies sont en fait en lien direct avec les limites administratives. Et donc, elles font en fait des limites cadastrales entre des propriétés. Et vous pouvez souvent constater qu'il y a une différence de gestion de part et d'autre de la haie des parcelles. Alors, on va maintenant aborder les rôles des haies. Et vous verrez que les haies sont vraiment très utiles pour plein de choses. Donc on l'a dit, premier point, elles ont un rôle administratif, elles vont délimiter des parcelles. Deuxième point, elles vont constituer un paysage qui est très associé à un type d'exploitation du territoire. Et ce paysage s'appelle le bocage. Un bocage est donc finalement un maillage de parcelles qui sont exploitées pour l'agriculture et qui sont délimitées les unes les autres par des haies. Ce paysage, il est retranscrit sur des cartes et ces haies vont influencer aussi même les cartes, les scans 25 qu'on peut utiliser pour faire des randonnées. Et finalement, on peut s'apercevoir que ça influence beaucoup la cartographie puisqu'on les retrouve, elles sont clairement dessinées. Et donc, elles servent encore de repères paysagers et ce sont aussi des repères historiques. Et finalement, on retrouve un petit peu l'histoire de ces haies puisqu'on a la connaissance de noms de lieux-dits qui sont en lien avec la position de ces haies. Et c'est là qu'on retrouve finalement dans la toponymie beaucoup de mots et de noms qui rappellent les haies et le fait qu'elles étaient là et qu'elles sont là depuis longtemps. Donc par exemple, on retrouve des lieux-dits qui s'appellent la haie ou la clé. Clé, ça s'écrit C-L-A-Y. Ou alors les clos ou la close, le closé, la clôtière qui est en rapport avec le mot clôture. Et aussi, on retrouve les lieux-dits comme le plessis, en lien avec les haies tressées, on dit des haies plessées. La toponymie est aussi influencée par les arbres qui constituent les haies. Et par exemple, vous avez le frêne, hein, le frêne qui marque beaucoup les territoires et influence beaucoup les noms de villes, de lieux-dits, même des noms de familles. Le frêne, son nom latin, c'est fraxinus. Et en fait, ça donne une racine fras ou fraisse ou freis, F-R-A-Y-2-S. Et là, vous pouvez retrouver, par exemple, le mot de freissiner le gela ou freisfond, ou alors encore le lieu dit freissi à la Capelle Cabanac. L'Orme, c'est pareil. L'Orme, il a donné aussi beaucoup de lieux-dits comme Olmia, Ulmio, Lomré, Lumo, Loum, L'Olmès ou L'Olmi qui se trouve au sud de Montcuq aussi. Le Noistier, ça donne Veis, Veissière, Veissé ou alors Coudré, Couderque en lien avec le mot coudrier. Bref, il y a énormément de toponymes qui peuvent faire référence aux arbres, aux arbustes et aux haies. Nous allons parler maintenant d'un rôle qui est très très important et très intéressant de la haie ou des haies. C'est le rôle qu'elle peut avoir dans l'agriculture. Alors, à quoi peuvent être utiles ces haies dans le domaine de l'agriculture? Mais déjà, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, elles ont un ancien rôle défensif parce qu'elles peuvent être utilisées ou elles ont été utilisées comme des clôtures. Donc évidemment, quand vous avez une haie constituée de prunelliers ou d'aubépines avec plein de belles grosses épines, autant vous dire que c'est pas très facilement franchissable par le bétail. Et donc finalement, avant, au lieu de mettre des barbelés partout, eh ben on avait des haies partout et le bétail était canalisé de cette façon. On avait aussi des haies qui étaient laissées autour des maisons, justement aussi pour protéger les intrusions des inconnus, etc. Donc la haie avait ce rôle défensif qui était quand même assez dominant avant l'apparition des clôtures artificielles et du barbelé. Ensuite, la haie a la capacité de produire énormément de biomasse et donc forcément peut être source d'engrais pour nos cultures, à savoir qu'un kilomètre de haie taillée 3 fois par an peut fournir jusqu'à 30 tonnes de BRF. Donc le BRF, hein, le bois raméal fragmenté, hein, que vous utilisez peut-être pour couvrir vos plates blandes de fleurs ou pour agrémenter votre terre dans votre potager. Et ben voilà, on peut trouver cette source de BRF sur des haies bien diversifiées et bien entretenues. Nous avons ensuite ce rôle très important que la haie joue, c'est le rôle de refuge des prédateurs auxiliaires des cultures. Finalement, on va se retrouver avec un lieu d'habitat pour des animaux qui vont pouvoir aller chasser dans des parcelles qui sont cultivées et qui peuvent être éventuellement attaquées par des phytophages, par exemple, ou alors par des rongeurs, etc. On va aussi avoir l'intérêt de pouvoir héberger et nourrir des insectes pollinisateurs qui sont finalement utiles à nos cultures qui ont besoin aussi des pollinisateurs pour pouvoir mais finalement donner des fruits utiles à notre alimentation. Et nous avons ensuite la notion de refuge des décomposeurs de matière organique qui se trouvent dans le sol et au pied d'une haie, évidemment. Ils vont pouvoir se réfugier parce que la terre n'est pas labourée et les horizons ne sont pas chamboulés. Et donc finalement, ils ont plus de protection au niveau de la haie et ensuite peuvent se disperser un petit peu plus dans les parcelles cultivées, le temps de pause entre les labours par exemple. Les décomposeurs vont du coup permettre d'enrichir le sol en éléments nutritifs pour les plantes, notamment les plantes qu'on cultive. Un autre rôle très important de la haie, c'est la lutte contre l'érosion des sols. Et en plus, elle va aussi faciliter l'infiltration de l'eau à proximité des parcelles cultivées. Comme on l'a dit, elle va aussi apporter beaucoup de biomasse et de matière organique. Et donc, finalement, on a un amendement naturel des sols à proximité des haies. Un autre rôle non négligeable, c'est la protection climatique des cultures et du bétail qui se trouve dans les parcelles de pâture. Finalement, les haies vont apporter de l'ombrage, vont protéger aussi contre le vent, contre le gel. Elle va jouer un rôle de régulateur thermique. Et en plus de ça, elle maintient quand même une espèce d'ambiance un petit peu humide. Toute l'humidité peut rester plus facilement canalisée dans la parcelle et temporiser un petit peu les problèmes de sécheresse. Et un dernier rôle qui est non négligeable quand même dans l'agriculture, c'est que les haies vont pouvoir limiter les invasions des parasites et la propagation des pathogènes et des épidémies d'une parcelle à l'autre, puisque finalement, elles vont jouer un peu le rôle de barrière, et donc de barrière naturelle. Et donc le dernier rôle important de la haie dans l'agriculture, qui peut être bien utile justement aux agriculteurs, c'est la limitation des invasions des parasites et de la propagation des pathogènes et des épidémies d'une parcelle à l'autre. Parce que bon, souvent le problème dans l'agriculture, c'est la monoculture, et donc finalement ces cultures sont vulnérables aux pathogènes. Mais s'il y a une barrière naturelle comme la haie, et bien finalement ça ne contamine pas les parcelles d'à côté qui sont dans la même culture. Voilà, maintenant on va faire une petite pause musicale avec les Pizol Sisters. Elles chantent une chanson que vous avez sûrement déjà entendue, qui est extraite du film O Brothers. Elles chantent In the Highways. Reprenons avec notre thématique du jour, les haies. Et nous étions en train donc de lister un petit peu tous les rôles que les haies peuvent avoir dans notre société. Et là maintenant nous allons parler des services socio-culturels que les haies peuvent nous donner finalement, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, elles sont une entité paysagère, elles constituent le paysage de bocage. Et ce paysage est un paysage qui est original, qui est un beau paysage et qui finalement, quand vous regardez de haut avec une photo aérienne, c'est un paysage complètement maillé et qui peut finalement faire l'objet d'attractions touristiques et donc de proposer des promenades agréables. Alors les plus étendues et les mieux conservées de France se situent en Normandie, en Bretagne, au Pays de la Loire ou Centre-Val de Loire par exemple. Et donc ce sont des régions qui font la promotion de leurs paysages pour attirer le tourisme. Ensuite, ces paysages sont aussi des sources d'inspiration pour les artistes. Et donc vous avez par exemple un exemple d'une peinture qui s'appelle Landschaftshof Saint-Martin de Claude Monet qui a peint une jolie haie fleurie. Et un autre service quand même qui n'est pas négligeable et qui est souvent justement utilisé autour des maisons et des jardins, c'est l'intérêt que la haie apporte pour parer les bruits et aussi se protéger du regard des autres, mais aussi faire un parvu ornemental et plus ou moins esthétique en fonction des goûts de chacun. Alors, la haie, les haies offrent aussi un autre service énorme, on va dire même des services. Ce sont les services écosystémiques. Alors, qu'est-ce que c'est que ces services-là? Les services écosystémiques, en fait, ce sont les bénéfices que les humains peuvent retirer des écosystèmes. Et c'est là qu'on retrouve un petit peu notre humble place dans tout ça, pour rappeler un petit peu que la et nous rend quand même des services indispensables à la survie des humains. Par exemple, la haie, ben, forcément, produit de l'oxygène, puisqu'elle fait de la photosynthèse. Elle va aussi, comme on l'a dit, permettre l'infiltration des eaux, mais aussi l'épuration naturelle des eaux, notamment quand celles-ci sont malheureusement remplies de pesticides. Elles vont favoriser aussi le maintien, le refuge des pollinisateurs qui, eux, sont indispensables à nos cultures et donc pour nourrir les humains. La haie, forcément, qui est constituée d'arbres et d'arbustes, est en fait un puits provisoire du carbone et donc une action qui est recherchée beaucoup en ce moment dans la replantation de forêts et de haies, justement. Et ensuite, on va aborder encore un autre rôle qui est très important, qui est un petit peu en lien avec ce que je viens de dire. Ce sont les rôles écologiques que les haies peuvent avoir. Je vais vous parler de trois notions importantes. La première, c'est la notion de écotone. Donc en fait, un écotone, c'est un milieu de transition entre deux écosystèmes. On va dire que c'est un petit peu un effet lisière. Et ici, en fait, comme la haie, c'est une bande linéaire d'un écosystème et que c'est fin, finalement, on se retrouve avec deux écotones de part et d'autre, ce qui augmente d'autant la biodiversité en fonction des écosystèmes qu'on peut retrouver de part et d'autre de cette haie. Alors, il y a quand même une petite chose à préciser, c'est que dans les haies, on ne va pas retrouver d'espèces végétales qui sont typiquement inféodées aux haies ou au simple l'écosystème bocageux. Parce que toutes les espèces de plantes que l'on peut retrouver dans les haies se retrouvent en fait dans les autres milieux, et notamment dans les lisières forestières et les forêts. Mais par contre, ce n'est pas forcément le cas pour la faune. On peut retrouver une faune qui peut dépendre soit complètement, soit partiellement de ce milieu. Et cette diversité va être d'autant plus importante qu'il y aura une diversité dans la structure, dans la composition de la haie. Donc ce qui veut dire, comme on l'a dit tout à l'heure, plusieurs strates de végétation, mais aussi plusieurs essences d'arbres et d'arbustes. Il est intéressant aussi d'y trouver du bois mort, des souches, des vieux troncs dans lesquels on peut trouver des cavités aussi. Et tout ça, ça multiplie les micro-habitats qui sont susceptibles d'accueillir tout un tas d'espèces différentes. Et donc, comme on l'a dit, il y a certaines espèces qui vont réaliser tout leur cycle biologique dans les haies et donc qui finalement ont besoin de la présence des haies pour pouvoir faire survivre leur espèce et leur population. Et il y a d'autres espèces qui vont ne se servir de la haie que pendant un moment de leur cycle, soit pour nicher, soit pour se nourrir. Et donc, on a le cas de certains passereaux hein, qui nichent dans les haies et qui nourrissent leurs nichées à partir d'insectes et de larves qu'ils vont retrouver dans les parcelles agricoles voisines. Et là, je rappelle aussi encore l'importance qu'il y a au fait de préserver des vieux arbres et des arbres morts dans les haies, mais aussi dans les forêts, évidemment, pour les oiseaux et des chauves-souris qui peuvent s'abriter dans des trous de vieux arbres, dans les cavités. Ce sont en fait finalement des oiseaux et des chauves-souris cavernicoles. Hein. Et ensuite, les vieux bois ou les bois morts vont permettre de nourrir les insectes xylophages et saproxylophages. Alors en fait, quand on regarde un petit peu tout ça, on peut constater que le bocage est un écosystème à part entière. Et la clé de fonctionnement des écosystèmes est la continuité de la chaîne alimentaire. En fait, il y a de multiples liens alimentaires qui existent entre les espèces. Il n'y a aucun maillon qui est isolé dans un réseau complexe. Et en fait, les végétaux, on le sait tous, sont bien à la base de la chaîne alimentaire parce que ce sont eux qui vont produire la matière à partir de la photosynthèse. Et ce sont eux qui vont nourrir les herbivores qui, eux, seront aussi à leur tour des proies des carnivores. Et forcément, de la vie à la mort qui finit par tomber au sol, les animaux, les déchets, les déjections, les feuilles, mais aussi les plantes entières vont tomber au sol et là, c'est les détritivores qui vont se mettre au boulot qui dégrade la matière organique. Et ensuite, les décomposeurs, toute cette microfaune du sol qui vont faire évoluer cette matière organique en matière inorganique qui sera directement assimilable par les plantes en la mélangeant à la terre, au pied et à proximité des haies. Et là, vous voyez, la boucle est bouclée. Cette matière organique va pouvoir de nouveau redonner des végétaux et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc plus il y a de diversité de végétaux et plus il y aura aussi de diversité dans la gestion des parcelles qui sont bordées par les haies, plus il y aura un équilibre et une résistance de la structure haie, mais aussi de l'écosystème bocageux. Et donc, plus on va pouvoir préserver d'espèces différentes dans ces milieux. La biodiversité dans les bocages peut être d'autant plus importante si les haies sont associées à d'autres micro-habitats qui sont souvent observés sur le terrain. Par exemple, les talus. On a dit, les talus, ils vont apporter d'autres conditions d'accueil pour les végétaux et pour les animaux. Mais en plus de ça, ils vont accentuer aussi les bénéfices de la haie en freinant les écoulements des eaux et en limitant aussi l'érosion des sols. Ensuite, on retrouve aussi assez souvent des fossés au pied des talus ou alors des haies. Et ces fossés, eux, vont favoriser l'enracinement vertical des arbres et des arbustes de la haie et en apportant aussi un autre type d'habitat pour une autre biodiversité. Et après, comme on le voit de plus en plus souvent, heureusement, ce sont aussi les bandes enherbées, donc qui longent les haies et qui bordent les cultures. Finalement, ces bandes enherbées sont aussi des puits de biodiversité et elles vont jouer un rôle important aussi pour les populations de pollinisateurs, etc. Et donc, plus la bande enherbée est large, on va dire 3 à 12 mètres dans l'idéal, plus le développement de la faune est important, et en particulier pour la faune auxiliaire. Bien, on va parler de la deuxième notion en écologie, c'est la barrière écologique. Alors la deuxième notion dont je voulais vous parler, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est la notion de barrière. Alors on a vu tout à l'heure que la haie peut être une clôture pour le bétail et aussi une barrière pour les parasites. Et c'est une barrière qui est non négligeable, qui peut vraiment être très utile en agriculture. Mais aussi, il ne faut pas le nier, ça peut être aussi une barrière pour certaines espèces de la faune sauvage. Par exemple, un cerf qui pourra traverser difficilement une haie bien dense. Mais donc, finalement, ils vont pouvoir plutôt suivre la haie. Et là, on aborde la troisième notion, qui est la notion de corridor, corridor écologique. Alors, un corridor écologique, en fait, c'est un couloir qui va favoriser le nourrissage, le refuge, mais aussi le déplacement de la faune et aussi de la flore, finalement, mais surtout de la faune. Et donc, ces corridors sont indispensables pour permettre à des populations de se croiser, favoriser un brassage génétique et donc la survie des espèces. Ça, c'est la base de la biologie. Alors, on l'a vu, donc ces corridors sont aussi une source de refuge de nombreuses espèces auxiliaires pour la production agricole. Et elles vont aussi permettre la survie hivernale, notamment des bourdons, des abeilles sauvages qui sont indispensables à cette pollinisation, etc. Elles vont aussi permettre le refuge des prédateurs, des parasites dans les parcelles. Donc finalement, on est vraiment sur un espèce de couloir refuge qui permet le déplacement et le déplacement en toute discrétion, notamment de la faune sauvage qui a besoin d'être protégée de la vue, par exemple des prédateurs ou encore des chasseurs éventuellement. Et plus le maillage est dense et continue, et mieux c'est. Et dans l'idéal, c'est que ces haies puissent connecter même des massifs forestiers. Puisque finalement, les animaux comme le cerf, qui n'a pas la possibilité de traverser une haie, pourra toutefois, quand même, en l'allongeant, passer de l'autre côté si au bout de ça, il y a une forêt, et il pourra le faire de façon très discrète. Voilà. Ah, et il n'y a pas forcément que des animaux qui se servent de la haie comme corridor, parce que vous vous souvenez, on a parlé tout à l'heure un petit peu de l'origine du mot haie, et on avait le mot normand qui était hague. Et en fait, hague s'est identifié à une créature dans le folklore anglo-saxon qui est un diminutif de Actès. Et en fait, Actès, c'est une créature imaginaire qui est apparentée aux sorcières, parce qu'en fait, on disait que les sorcières sont des coureuses de haies et qu'elles se déplaçaient discrètement le long des haies pour justement ne pas être aperçues. Donc voilà, vous avez compris, je pense, pourquoi je voulais vous parler des haies, parce qu'elles ont vraiment un très très grand intérêt pour nous, pour nos sociétés, aussi pour tout ce qui est biodiversité. Et malheureusement, ce sont des entités paysagères qui sont menacées et qui le sont de plus en plus. On a vraiment des régions en France où elles ont été fortement détruites. De nombreux linéaires de haies ont été arrachés justement à cause de l'industrialisation de l'agriculture, entre guillemets, hein, c'est l'intensification de l'agriculture avec les agrandissements de parcelles, ces grandes machines qui ont besoin d'énormément de place pour circuler. Donc on a supprimé un petit peu tout ça, mais on a perdu en même temps tous les avantages qu'elles pouvaient apporter à l'agriculture. Et en plus de ça, même quand elles sont présentes, des fois, elles subissent aussi l'impact des pesticides et pas que la haie, mais aussi toute la faune qui y vit dedans. Et donc, on se rend compte que l'érosion des haies est une des principales causes de l'érosion de la biodiversité dans le système bocager. Donc, il est important de s'en rappeler et d'essayer de maintenir ces maillages dans l'idéal sans interruption pour avoir un maillage fonctionnel et un écosystème fonctionnel qui vont permettre la conservation et le déplacement de la biocénose. Je vous ai même pas parlé encore d'un dernier intérêt, c'est que la haie finalement est une grande productrice de consommables. Elle a de multiples usages paysans et traditionnels grâce aux diverses plantes qui l'habitent. Ça va du bois, du feuillage, des rameaux pour faire de la vannerie, du BRF, des fruits, des champignons, du miel, mais aussi elles peuvent être utilisées aussi en phytothérapie. Mais ça sera la suite au prochain numéro, on en reparlera plus tard. Voilà. On peut conclure quand même, vous l'avez compris, sur ce grand intérêt pour nous et nos cultures de préserver les haies. Donc s'il vous plaît, plantez des haies si vous en avez l'occasion. Et tant que possible, des haies diversifiées avec des essences locales et adaptées à notre territoire. Et s'il vous plaît, essayez d'éviter de nous faire des haies monospécifiques, le plus souvent persistantes, que l'on appelle le béton vert, ces fameuses haies de cyprès, tuya, faux cyprès et même du bambou. Parce que finalement, elles n'ont que pour seul intérêt d'être un parvu, voire éventuellement un pare-bruit, mais c'est même pas très esthétique. Et elles perdent tous les intérêts écologiques dont on a parlé. Et en plus, on peut même pas dire qu'elles soient très efficaces contre le vent parce qu'elles sont tellement denses et homogènes qu'elles provoquent plutôt des turbulences au sol à l'arrière de ces haies. Et en plus de ça, toute plantation monospécifique reste très vulnérable aux attaques des parasites. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris. L'essentiel du message là, c'est d'avoir des haies stratifié et diversifié. Et si vous avez envie de maintenir ou de développer ce patrimoine, vous avez la possibilité de vous faire accompagner aussi par des structures locales qui peuvent vous donner des conseils, voire des soutiens, peut-être même financiers. Vous avez notamment la Chambre de l'agriculture du Lot, mais aussi des associations comme l'association Cœur de forêt ou Arbres et paysages 46. Bon, je vais vous laisser avec une chanson des Rolling Stones qui s'appelle « Till the next goodbye ». Et là, il chante en fait une chanson dans laquelle il parle de vin de sureau, qui est une plante que l'on peut trouver assez souvent dans nos haies. Voilà, c'était Caroline de l'association Primula Plantes et Hommes. À bientôt pour la suite sur les haies.
honey, is there any place that you would like to eat? I know a coffee shop down on 52nd Street. And I don't need no fancy food, and I don't need no fancy wine. And the show don't need the tears you cry. Till the next time we say goodbye. Till the next time we say goodbye. Till the next time we say goodbye. I've been thinking of you. A movie house on 42nd Street ain't a very likely place for you and I to meet. Watching the snow swirl around your hair and around your feet. And I'm thinking to myself, it surely looks a treat. Till the next time we say goodbye. Till the next time we say goodbye. Till the next time that we kiss goodnight. I sure do need some cider vinegar and some elderberry wine. May cure all your ills, but it can't cure mine. Your Louisiana recipes have let me down. Your Louisiana recipes surely let me down. Till the next time we say goodbye. Drink. Till the next time we say goodbye. Till the next time we kiss goodnight. Till the next time we say goodbye.